10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi pour une nouvelle semaine jusqu'à 16h et en direct. On parle de vous et je serai accompagné de ma chère Ambline que vous écoutez depuis un moment, je crois. Comment allez-vous, ma chère?
Ce matin. Bonjour Olivier,
vous
bonjour à tous.
Vous votre sprint.
C'est ça, entre les deux studios, la garde à recoller.
Pendant cette heure, nous parlons de vos expériences de vie, de vos histoires, car comme vous le savez, notre vécu et votre vécu nous intéressent surtout. S'envoler à l'autre bout de la planète, quitter un emploi confortable pour suivre ses aspirations profondes et transformer ses habitudes, il suffit parfois d'un déclic pour décider de bousculer son quotidien et de changer une vie qui paraissait monotone. De nombreuses personnes se lancent dans des études ou dans une carrière avec de nombreuses attentes, mais la réalité s'avère parfois différente et les envies changeantes. Mais se plonger dans l'inconnu, n'est pas sans risque. Et avant de se lancer, il est nécessaire d'interroger profondément ce que l'on souhaite réellement. Pourquoi tant de personnes rêvent-elles de changer de vie ? Comment réussir à suivre ses aspirations ? Tout plaquer du jour au lendemain, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
On vous écoute comme chaque après-midi et l'été aussi, au 3921, le standard d'Europe 1, puisque nous sommes en direct jusqu'à 16h. Vous pouvez également nous écrire, car on aime vous lire, sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour Aurélie, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier,
bonjour.
Merci.
Je vous en prie, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 37 ans et je vous appelle du Limousin.
D'accord. Alors Aurélie, quand vous étiez enfant, vous étiez pleine de rêves et surtout éprise de liberté. En grandissant, vous avez été forcée de vous éloigner. Expliquez-moi pourquoi.
De m'éloigner de ses rêves et de
liberté. Oui, de ses rêves, oui, complètement.
Disons que, en fait, à l'école, au début, j'avais beaucoup de chance. J'étais avec des professeurs qui cultivaient cette envie de liberté, qui m'aidaient à créer des poésies, parce qu'en fait, j'adorais écrire.
Oui.
Mon rêve, c'était de devenir écrivaine. Et puis, dès que je suis rentrée au collège, en fait, tout ça, c'est devenu pas sérieux, quoi. C'était pas du travail, c'était pas sérieux, c'était...
Oui, oui.
Et en fait, je me suis éloignée de ces rêves parce que c'était un peu comme si ils étaient mignons, mais c'était pas ça la vraie vie, quoi.
C'est assez violent, hein, finalement, quand on a des aspirations, je dirais, d'ordre artistique, comme la musique, comme l'écriture, comme ça, et que cela est considéré par nos parents comme un côté un peu saltimbanque, en tout cas quelque chose de pas sérieux. Vous subissiez, vous aussi, une certaine pression familiale qui vous a poussé, finalement, à suivre des études, trouver un emploi stable. Vous avez l'impression de mener la vie que vous aviez choisie ou que vos parents avaient choisi, un peu, en tout cas, influencée?
En fait, oui, c'était plutôt influencé parce que j'avais pas de pression. Mais c'est vrai que les parents s'inquiètent et je comprends qu'ils s'inquiètent. Enfin, c'est à peu près normal. Et je crois que c'est pas seulement les filières artistiques, c'est vraiment, pour moi, chacun a une singularité et on a des choses à accomplir. Et c'est vrai que, en général, on favorise plutôt ce qui va, d'aller tous dans le même sens, quoi. Alors que je pense que on est tous uniques et il y a plein de voies différentes.
Oui.
Et c'est vrai que j'étais pas encouragée, que ce soit à l'école ou dans la famille, à suivre des voies très différentes. Mais c'était pas une pression, c'était parce que voilà, il fallait gagner sa vie, il fallait réussir, en fait.
Mais c'est une pression quand même.
Oui, tout à fait, oui.
oui, on appelle un chat, ma chère. C'est quand les parents vous disent ah, ça c'est pas très sérieux, tu sais, ça gagne pas beaucoup, c'est une manière de nous influencer et de nous montrer que il faut faire autre chose. Vous avez enchaîné plusieurs travails en cherchant toujours celui qui répondrait à vos aspirations profondes, mais en vain. Puis en 2015, il y a eu un déclic. Expliquez-moi ce qui s'est passé exactement en 2015.
En fait, ce qui se passait, c'est que en 7 ans de travail, j'avais changé d'entreprise et de métier, je ne sais pas, 4 fois.
Oui. Que faisiez-vous?
J'ai été responsable commercial dans une structure qui faisait du théâtre pour les entreprises. J'ai aussi travaillé dans une entreprise de marketing. J'ai travaillé dans une grande entreprise. J'ai travaillé dans une petite start-up où j'étais en charge du recrutement et je co-dirigeais la start-up. Enfin, j'ai fait des trucs vraiment différents.
Oui.
Et à chaque fois, je finissais par manquer de sens et par ne plus arriver à me lever le matin parce que c'était pas ce que j'attendais. Mmh. Et puis je voyais que j'étais pas la seule. En fait, dès que je discutais avec des gens, je leur demandais si leur boulot leur plaisait. Ils me disaient bah non, pas trop, mais on n'a pas trop le choix. Je voyais passer aussi des rapports sur les burn-out parce que je travaillais quand je faisais du théâtre pour les entreprises, on travaillait sur les risques psychosociaux, les suicides, tout ça. Et oui. Je me disais mais en fait c'est pas normal que le monde du travail apporte tant de souffrance.
Il y en a beaucoup qui ne sont pas heureux dans leur travail. Hein. C'est une chance réelle d'être heureux dans son travail.
Oui, mais ça devrait pas.
Oui, ça ne devrait pas.
Ouais.
Alors, ça part aussi du principe que lorsque on choisit une carrière et que il faut se lancer corps et âme dedans, et beaucoup d'entre nous en fait finissent par ne pas aimer ce qu'ils font, et c'est cela dont on parle, parce que je connais par exemple une comptable qui adore son boulot et qui se complaît vraiment dans ce type de mission, et elle transforme le côté professionnel de sa vie en un véritable plaisir. Vous avez choisi de partir à l'étranger pendant plusieurs mois, Aurélie. C'était une façon de redonner du sens à votre vie ?
C'était parce qu'en fait, j'ai tout quitté. Il fallait que je m'éloigne de ce que j'avais connu jusqu'ici pour vraiment rebattre les cartes depuis le début.
Oui.
Je voulais en fait trouver autre chose, mais j'avais aucune idée de ce que je cherchais. J'avais décidé de me lancer dans l'inconnu. Et si j'étais restée en France au départ, parce qu'après la suite de mon voyage s'est fait aussi en France, mais si j'étais restée en France, j'aurais subi justement la pression dont vous parliez au début de l'émission, la pression familiale, la pression des amis, qui me demandaient mais en fait qu'est-ce que tu vas faire ?
Ouais.
Et en fait j'avais aucune idée.
Alors on va voir ensemble dans la seconde partie de cette émission où vous amenez ce plongeon vers l'inconnu, et on va voir quelle est la suite de votre histoire dans quelques instants.
Europe 1. Comme Aurélie, vous avez tout plaqué pour vous, je cite, lancer dans l'inconnu. Vous témoignez au 39-21. Vous faites partie de ceux qui ont soudain ou pas, qui ont eu soudain l'envie de changer de paysage, d'atmosphère, de changer leur destin. Vous pouvez aussi nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Nous discutons avec vous de cette volonté de tout plaquer pour changer de vie. C'est ce que vous avez fait. Voyage longue durée, hein, surtout comme le chante Désirless. Vous témoignez au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Désirless, un air qui peut vous accompagner toute la journée. Car
oui.
La spécificité de ce type d'air, c'est qu'il ne vous quitte pas, vous le chantonnez toute la journée.
Vous pouvez nous remercier.
Oui, c'est un truc que je remarque chez pas mal de gens. Aurélie, nous sommes toujours avec vous. Vous nous expliquez avoir fait ce grand plongeon dans l'inconnu après avoir enchaîné quatre emplois. Mais que vous ne sentiez pas en adéquation avec ce que vous désiriez. Ce plongeon dans l'inconnu, d'abord, est-ce qu'il vous a effrayé ? Et ensuite, quelle a été la réaction de vos proches qui, jusqu'à maintenant, on a compris que c'était une certaine pression familiale ?
Évidemment, oui, ça m'a effrayé. J'avais peur, mais je sentais, j'avais décidé d'écouter mon instinct, et mon instinct, lui, il me disait de partir.
D'y aller,
et il me disait de suivre cet inconnu, en fait, et de pas prévoir, de pas avoir de plan. Parce qu'en fait, si j'avais eu un plan, si je m'étais fixé des objectifs clairs, tout ça, je serais jamais arrivée là où je suis arrivée. Donc, c'était ça. Et en fait, c'est ça qui faisait le plus peur à mes proches. Ce qui fait que, en fait, on s'est mis à parler un peu moins. Pendant un temps.
Ouais.
C'était un temps, et puis après on s'est retrouvés. Mais c'est vrai que ce temps-là, il était trop difficile pour eux et pour moi, en fait, il y avait trop d'inquiétude.
Alors moi, j'adore l'idée que vous avez eue, puisque vous êtes parti parcourir l'Europe avec l'objectif de redonner le sourire à chaque personne que vous choisissiez. Expliquez-moi pourquoi, d'un seul coup, avoir eu cette idée, cette belle idée et cette idée qui fait avancer.
Parce que en fait l'idée de départ c'était d'arrêter de voir autant de résignation. Enfin, c'est ça qui m'avait fait partir, c'était le fait que moi je trouvais pas de sens, et puis le fait que je voyais que autant de gens autour de moi ne trouvaient pas le sens, étaient résignés,
oui.
Et j'avais envie de redonner de l'élan.
Mmh.
Et en fait je voulais aussi parler à tout le monde, aux gens ordinaires, et ça c'était la chose importante dans mon projet. C'est pour ça que ça s'appelait Ordinary Happy People, parce que je voulais pas en fait faire des grandes leçons pour dire on peut devenir super connu, on peut devenir super pointu dans son métier. Non, on peut juste être soi, retrouver l'élan intérieur et être heureux. C'était ça que je voulais faire.
D'accord. Alors c'est en arrivant à Lisbonne que vous avez lancé votre projet Ordinary Happy People. En quoi consiste-t-il ce projet ?
Eh ben, je faisais des. Alors, c'est aussi. En fait, c'est en arrivant à Berlin. Ça a commencé à Berlin, puis à Lisbonne.
D'accord.
Et je faisais deux choses. J'allais dans des endroits où les gens sont un peu moroses, et je tenais un grand panneau où il y avait écrit "Souriez, ça pourrait changer votre journée."
Ouais.
Par exemple, dans le métro à Berlin ou à la sortie des. Enfin, dans les quartiers d'affaires à Lisbonne. Et en fait, il y avait plein de sourires qui naissaient. Au début, les gens, ils se disaient, mais elle est complètement folle, qu'est-ce qu'elle fait?
Ouais.
Et puis, il y en avait qui essayaient de résister. Et finalement, enfin, moi, je forçais rien, j'étais juste là pour proposer un sourire, et les gens se mettaient à sourire. Et il y en avait qui me dépassaient, puis qui revenaient et qui me disaient, excusez-moi, mais aujourd'hui, j'ai plein de problèmes. Ils n'ont pas disparu, mais je vais les aborder autrement grâce à votre panneau.
Oui.
Donc ça, c'était une première chose. Et l'autre chose, je faisais des portraits en fait de gens que je croisais dans la rue, dont ils se dégageaient une joie. Et je captais par une photo et un écrit la joie qui se dégageait d'eux. Je partageais ça sur Internet pour en fait donner de l'espoir à ceux qui me lisaient.
Vous vous êtes trouvée, hein, Aurélie, aujourd'hui, vraiment à travers ce projet, puisque aujourd'hui vous vivez dans le Limousin, sur la diagonale du vide. Votre quotidien, on sans doute, a considérablement changé. Vous avez raconté votre histoire dans un livre, Embrasser l'inconnu. Raconter ce changement de vie, c'était une façon de pousser les gens à écouter leurs envies, à réaliser qu'ils avaient des envies et que, à travers votre histoire, eux aussi pouvaient changer de vie.
Bah, en fait, moi, je veux pousser personne. Je veux juste témoigner pour dire c'est possible.
Oui, déclencher.
Et ensuite, chacun en fait fait comme il peut, comme il veut, comme il peut, parce que on a des barrières plus ou moins grandes chacun. On a aussi des contraintes plus ou moins grandes. Mais voilà, c'était pour dire c'est possible et effectivement semer des petites graines et donner de l'élan. Et c'est vrai que je reçois des messages aujourd'hui de gens qui ont lu Embrasser l'inconnu et qui me disent bah voilà, j'ai quitté mon boulot après vous avoir lu. Il y en a d'autres qui achètent un camion parce que donc j'ai voyagé ensuite dans un camion de pompiers et c'est lui en fait qui a vraiment changé ma vie. C'est ce camion dans lequel il y avait rien et où j'ai retrouvé tout en fait.
La liberté, vous avez retrouvé.
Ouais,
je pense à
liberté.
Ce camion. Je n'ai jamais vu ce camion, mais je suppose qu'il a une place importante dans votre témoignage, dans Embrasser l'inconnu, paru aux éditions Anne Carrière. Ce livre qui a dû déclencher pas mal de vocations, hein, de changement de vie, et puis qui en déclenchera encore. En tout cas, merci pour ce beau témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle hein, le titre de votre livre, parce qu'il est important, Embrasser l'inconnu, c'est aux éditions Anne Carrière. Merci Aurélie Delay. Dans un instant, nous allons accueillir Sylvie Pasquale. Sylvie Pasquale est coach en reconversion professionnelle et fondatrice du cabinet TAC Coaching.
Europe 1.
Itac, pardon, coaching.
Vous éprouviez de l'ennui au travail dans votre ville, dans votre quotidien, casser le train-train. Pour recommencer hier, vous avez changé de vie. On vous écoute sur Europe 1 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Sur Europe 1, entre 15h et 16h, vous discutez en direct avec Olivier Delacroix. Vous racontez votre histoire au 39-21 et vous nous dites si vous avez réussi à changer de vie, stopper un destin, tout tracer, pourquoi pas partir à l'aventure.
Exactement. Sylvaine Pasquale est avec nous maintenant. Elle est coach en reconversion professionnelle et fondatrice du cabinet Itac Coaching. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour. Alors Sylvaine Pasquale, quelles sont les principales raisons qui poussent beaucoup de gens à entreprendre un changement de vie ?
Alors aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de gens qui se reconvertissent malheureusement après un burn-out. Et ce qui génère du coup la motivation, c'est à la fois une meilleure articulation des temps de vie et à la fois un peu l'élan dont Aurélie parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le désir de renouer avec une vie professionnelle qui a du sens.
Oui.
Aujourd'hui où le monde du travail voit une perte de sens assez considérable.
On a l'impression que c'est une tendance aussi, que tout plaquer pour une autre vie, eh bien c'est un phénomène de société. Pourquoi avoir ce sentiment-là ?
Je suis pas tout à fait certaine que statistiquement ce soit réellement un phénomène de société. C'est sûr que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur.
Oui.
On en voit plus, mais surtout on en parle beaucoup plus.
Oui.
Et c'est intéressant qu'on en parle beaucoup plus parce que ça permet aussi aux gens de s'autoriser au moins à y réfléchir.
Mmh. Parce que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, le monde du travail est beaucoup plus compliqué. Hein. Il y a une pression beaucoup plus accrue sur les salariés. Et c'est ce pourquoi, de plus en plus d'entre nous ont envie de changer d'emploi, vous ne croyez pas ?
Oui, beaucoup plus dur, beaucoup plus déshumanisé, une surcharge de travail de plus en plus grande, peu de reconnaissance, pas grand-chose qui fait qu'on se fait plaisir au boulot.
Alors, vous êtes coach en reconversion professionnelle. Quel est le profil type de vos clients ?
Alors, j'ai un panel assez vaste de clients possibles, qui viennent de tous horizons. Le point commun qu'ils ont, parce qu'en termes d'âge, on est entre 27 et 55 ans.
Oui.
Donc, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de génération. Ce n'est pas non plus une question de niveau d'études. Le point commun entre toutes ces personnes, ce sont des gens qui ont envie de redonner du sens à leur vie professionnelle.
D'accord.
D'avoir envie de se lever le matin.
Oui. Et quelles sont les principales questions qu'on l'on doit se poser avant de tout plaquer ? Est-ce qu'il vous les pose, ces questions-là ? Est-ce que, comme on écoutait Aurélie, qui pourtant avait cette liberté hein, en elle, elle savait profondément qu'elle voulait faire autre chose de sa vie, mais elle parle quand même d'un plongeon dans l'inconnu où elle était effrayée. Est-ce que pas mal de questions tournent autour de cette peur de changement ?
Oui. Alors beaucoup d'ailleurs, c'est le frein principal. Et puis c'est un frein qui est tout à fait légitime parce que se jeter dans l'inconnu, c'est bien, mais comment on y vit dans l'inconnu ? Et du coup, ce qui est intéressant, c'est justement de transformer toutes ces peurs en moteur. Les peurs, elles se manifestent sous forme de pensée, hein, de réflexion, de rumination aussi beaucoup, de l'ordre de « mais mon idée, est-ce que je vais pouvoir en vivre ?» Des questions de cet ordre-là. Or, le problème, c'est que quand on se pose une question de cette manière-là, ben, la réponse est « je ne sais pas ».
Oui, bien sûr. Bien
Et tant qu'on ne sait pas, évidemment, ça ne donne pas spécialement envie de se lancer. Donc, l'idée, c'est peut-être de reformuler les questions autrement plutôt que de se poser des questions spécifiques, hein, d'écouter toutes les questions qui nous viennent et de les formuler en questions ouvertes. Alors, si je prends l'exemple de « est-ce que je peux en vivre ?» et ben, reformuler la question en disant ben, « comment je m'y prends, moi, pour vivre de mon projet ?» Et ça amène à d'autres questionnements qui sont beaucoup plus concrets. Ben d'abord, ça veut dire quoi en vivre, par exemple Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de revenus? Et une fois que je sais concrètement ce que ça signifie en termes de revenus, ce qui d'ailleurs, Aurélie le soulignait, peut être très variable, hein, les désirs des uns et des autres sont très variables et tout le monde n'espère pas devenir riche et célèbre. Et une fois que j'ai posé ça, ben, je peux réfléchir en me disant, ben, tiens, alors tel type de revenus, ça correspond par exemple, si je veux entreprendre, à tel chiffre d'affaires, et puis du coup, ben, ça correspond à tant de prestations. Comment je m'y prends pour réussir à vendre tant de prestations?
J'ai l'impression, en tout cas, qu'en les amenant à se poser tout un tas de questions et on entend la progression et un questionnement structuré, vous amenez vos clients à ne pas se tromper parce que c'est aussi ça la peur qui doit les habiter.
Oui, c'est l'objectif effectivement, c'est l'objectif et en fait c'est ce qui permet, tous ces questionnements, c'est ce qui permet de cartographier cet inconnu dont on parlait tout à l'heure. Je me lance dans l'inconnu, je ne suis pas tout de suite en reconversion, je suis d'abord en réflexion et je vais aller regarder de quoi cet inconnu est fait et ce que je peux faire à l'intérieur.
C'est une façon de lorsque vous leur conseillez de tenter une immersion dans l'univers qui les attire, c'est une façon de ne pas prendre une décision comme ça sur un coup de tête.
Exactement. Alors, ça peut prendre beaucoup de formes, ces explorations. Ça peut être une immersion, mais ça peut être aussi beaucoup de prises de renseignements en amont. Il y a énormément d'institutions et d'organismes qui s'occupent de ce genre de choses. Ça peut être rencontrer des professionnels, ça peut être assister à des conférences, ça peut être faire des stages, ça peut être faire une initiation, des choses comme ça. Il peut y avoir beaucoup de choses qu'on peut faire pour explorer avant même de décider si finalement c'est un projet pour soi. Pas.
Sylviane Pasquale, vous êtes coach en reconversion professionnelle, donc cela veut dire que vous êtes confrontée régulièrement à ces personnes qui veulent changer de vie. Tout le monde peut-il réellement tout plaquer, respecter ses envies comme ça, du jour au lendemain, en tout cas, même en suivant une certaine progression comme vous leur conseillez ? Mais est-ce que tout le monde est apte à faire ce type de changement ?
Alors, c'est ce que l'exploration va permettre de déterminer. Parce que un changement ne se fait pas avec un profil particulier. Il se fait avec son propre profil et ce qu'on peut mettre dedans. Mmh. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que lors de ces explorations, tous les clients ne choisissent pas nécessairement de tout plaquer et de tout changer. Parfois, ce sont des petits changements qui sont mis en place. Ouais. Parfois, un changement d'entreprise avec des conditions plus adaptées à ce qu'on souhaite. Parfois, le même métier, mais dans un autre secteur d'activité. Ça peut être des changements plus petits, comme ça, mais qui sont suffisants pour régénérer de la satisfaction.
Sylvaine Pasquale, vous restez en ligne avec nous. Vous allez continuer à nous éclairer aussi nettement que vous le faites depuis votre intervention. Dans un instant, nous allons accueillir Charlotte. On va voir que Charlotte a quitté le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat et aider les gens à changer de vie. L'entrepreneuriat, on aura l'occasion de l'évoquer ensemble, Sylvaine, dans le reste de cette émission. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. Tout plaqué pour changer de vie, de ville, de travail, de pays. Est-ce que c'est votre cas? Vous nous racontez au 3921 et vous réagissez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Croyez-vous que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté? Vous avez changé de vie, quitté votre travail, quitté votre ville. Vous nous racontez au 3921, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Charlotte. Bonjour Charlotte, soyez la bienvenue sur l'antenne Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Charlotte?
Alors j'ai 27 ans et je vous appelle depuis Paris.
D'accord. Alors vous avez commencé votre carrière comme salarié dans le monde de l'entreprise. Cette voie-là, vous l'aviez vraiment choisie?
Oui, tout à fait. Au départ, je l'avais choisie. J'ai fait mes études pour ça. J'ai commencé en fait en ressources humaines, en étudiant à Sciences Po. L'objectif, c'était effectivement de pouvoir accompagner les salariés dans l'entreprise et déjà de faire du travail un vecteur d'épanouissement. Oui. Donc j'ai vraiment commencé comme ça. Après, j'ai travaillé dans le conseil en management avec toujours ce type d'objectif. Et oui, c'était choisi. Je pensais vraiment faire carrière. J'avais le profil bonne élève, ambitieuse. Donc c'était la voie toute tracée pour ça.
Vous vous êtes rapidement rendu compte que vous ne vous épanouissiez pas à cette place. Vous êtes mise en quête de vos aspirations. Racontez-moi comment.
Oui, alors c'est ça. En fait, au départ, déjà en ressources humaines, moi j'ai eu ce sentiment que c'était pas assez stimulant pour moi. Et quand j'ai travaillé dans le conseil, j'avais ce même ressenti où il y avait des missions que je trouvais assez peu enrichissantes, où je travaillais pour des gros clients avec beaucoup de process, beaucoup de jeux de pouvoir interne, beaucoup de PowerPoint.
Ouais, ouais.
Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire autre chose. Et en fait, les étapes par lesquelles je suis passée, c'est celle que je recommande aujourd'hui, en fait. C'est de commencer déjà par une phase d'introspection où on se questionne sur ce qu'on veut, sur qui on est, sur comment on fonctionne, sur les talents qu'on peut avoir. Donc, c'est toute cette phase de réflexion sur soi que j'ai faite pendant plusieurs mois.
Ouais.
Et après, c'est ce que j'appelle la phase d'exploration où là, on commence justement à sortir un petit peu de chez soi, à sortir de son mental qui est en pleine effervescence pour aller participer à des événements, rencontrer des gens qui sont dans les domaines qui nous attirent, pour aussi tester directement certains projets, certaines activités.
Ouais.
Donc, je suis vraiment passée par toutes ces étapes-là pendant quelques mois pour m'orienter vers le domaine justement du développement personnel, de la formation, de l'éducation.
Et alors, en fait, lorsque vous avez passé le pas, est-ce que ça a changé votre quotidien et sous quels aspects exactement? Expliquez-moi.
Oui, alors déjà, moi j'ai commencé donc à me renseigner en parallèle de mon emploi salarié et rien que le fait de faire ça à côté de son job, ça fait une bouffée d'air. Donc
ouais.
Déjà, ça change.
Ouais.
Ensuite, donc moi j'ai fini par poser ma dème, par partir de mon emploi. Et donc là maintenant, ça fait plus de 2 ans que je suis entrepreneur, donc rien à voir avec ce que je faisais avant, en tout cas sur les, ne serait-ce que les modalités de travail. Donc ce que ça a changé déjà, c'est que j'ai une immense liberté par rapport à avant.
Ouais.
Liberté dans ce que je peux créer. Par exemple, si j'ai une idée, je peux la mettre en œuvre tout de suite. Je n'ai pas à attendre des niveaux de validation dans la manière dont je crée aussi. C'est aussi une liberté horaire et géographique puisque je peux travailler d'où je veux, alors quand je veux, entre guillemets aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot.
Bien
mais
sûr.
Toute cette liberté-là, je ne l'avais pas avant. L'autre chose aussi qui change la donne, et c'est ce qu'on recherche beaucoup quand on veut changer de voie, c'est le sentiment d'accomplissement et de trouver du sens dans ce qu'on fait. Et dit concrètement, c'est je sais pourquoi je me lève le matin. Et rien que ça, en fait, ça change complètement la vie. Et ça, je ne l'avais pas avant. Donc, ça a changé effectivement sur tous ces points-là. Alors, il y en a de nombreux, mais c'est les principaux.
En tout cas, c'est très courageux de poser sa démission pour se lancer comme ça, pour plonger. Avoir osé, justement, ça vous a donné confiance en vous. C'est un des paramètres majeurs de la confiance qu'on peut avoir en soi quand on prend ce type de décision.
Oui, beaucoup. En fait, moi, j'ai le sentiment d'avoir évolué aussi avec la création de mon entreprise, où quand on fait le choix de refuser un statu quo et de refuser un cadre, un fonctionnement qui nous est imposé, entre guillemets, par la société, par les études qu'on a faites, etc. Ben, en fait, on prend confiance dans notre capacité à créer notre vie sur mesure. Moi, je le perçois un petit peu comme ça. Et avant, j'avais beaucoup la crainte de bien faire, d'être validée par un chef, de suivre des processus. Il y avait aussi la comparaison avec les collègues. Alors que là, aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai mon projet, j'ai mon entreprise. Les gens aiment ce que je fais. J'ai une communauté qui me suit. Donc oui, ma confiance, elle est clairement décuplée par rapport à avant. Et il n'y a pas un seul jour où je regrette d'avoir posé Madem.
J'adore le nom de votre entreprise. Postadem. C'est génial. Vous avez créé Postadem et vous accompagnez aujourd'hui des personnes dans la reconversion professionnelle. Quel est le premier conseil que vous leur donnez à ces personnes? Parce qu'on entendait tout à l'heure Sylvaine Pasquale nous parler du questionnement qu'elle les amène à avoir, un questionnement structuré, progressif sur cette envie, pour que vraiment voilà, on mature, et puis cette plongée momentanée dans l'univers qu'ils veulent incorporer ensuite. En tout cas, voilà, ce sont des conseils que vous donnez aussi à ceux que vous recevez dans Postadem.
Oui, c'est ça. En fait, il y a un conseil clair. Déjà, le tout premier, c'est de différencier la réussite telle qu'on pense devoir l'entendre, donc ouais. Celle qui est dont on hérite en fait, et la réussite telle qu'on l'aperçoit soi-même. Et déjà, le fait de faire la différence entre les deux, ça peut changer la donne. Ensuite, le conseil clé, effectivement, alors par rapport au nom Postadem, le conseil que je donne, c'est justement ne posez pas votre Adem du jour au lendemain.
Non, hein,
c'est postadem.com, pas Postadem du jour au lendemain, surtout pas. C'est de préparer ça justement, de procéder vraiment étape par étape. Ben, celle que j'ai indiquée, hein, l'introspection, l'exploration, l'action. Et en fait, c'est d'adopter la stratégie des petits pas de chaque jour, chaque semaine, j'avance dans la bonne direction. Donc pour ça, j'ai effectivement besoin de définir cette bonne direction. Mais c'est justement aussi en essayant des choses que je vais la trouver, cette direction. Et c'est là que quand on est que dans la réflexion, ben, il nous manque quelque chose. Donc il faut aller sur le terrain, il faut essayer des choses, rencontrer des gens. Donc c'est effectivement ça que je donne comme conseil numéro un.
En tout cas, si vous qui êtes à l'écoute, vous avez la moindre envie d'amorcer un changement de vie, si quelque chose vous attire, vous pouvez retrouver Postadem et Charlotte facilement sur Internet et commencer à prendre contact avec ce changement de vie en lisant des témoignages et puis peut-être en conversant avec Charlotte. Merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1, Charlotte. Dans un instant, nous allons accueillir Caroline, blogueuse mode à succès. Elle a tout plaqué pour partir voyager en Inde avec son compagnon. Fini les Fashion Week, fini la mode. Ouf ! On va voir quel est son ouf dans quelques instants.
Et Sophie, 37 ans, témoigne au Standard Europe 1 le 39-21. Elle nous dit « Sophie, j'aimerais beaucoup tout plaquer, faire le tour du monde avec mes enfants, mais je ne suis pas prête à tous les sacrifices ni à changer ma vie du tout au tout. Je garde en tête que je pourrais le faire, mais cela restera sans doute un doux rêve. » Pas facile de franchir le pas.
Il y a encore du travail hein, quand même.
Effectivement. Ouais. On parle de l'envie de changer de vie. Vous avez franchi le pas. Venez partager avec nous votre expérience. Vous nous appelez cet après-midi au Standard Europe 1 le 39-21, 50 centimes la minute. À tout de suite.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Revenez ici, Omblina, et fais danser.
Partir un jour, comme les To Be Free, vous avez ressenti le désir de partir, de réorienter la trajectoire de votre vie, de quitter votre train-train quotidien pour recommencer ailleurs, pour recommencer autrement. Vous avez franchi le cap 39-21 pour être en direct avec Olivier Delacroix.
Partir un jour sans retour, bien c'est peut-être ce que va nous raconter Caroline, que nous accueillons maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Caroline, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Olivier.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Caroline?
J'ai 40 ans et je suis parisienne.
D'accord. Alors, il y a quelques années, vous avez créé un blog de mode qui a rapidement été très suivi. Quel était votre quotidien à l'époque? Vous baigniez dans la mode entièrement?
Oui, j'avais eu un des premiers blogs de mode et du coup, j'avais eu vraiment un gros succès. Et c'était pas encore comme aujourd'hui, les influenceurs, etc. Les marques connaissaient pas encore bien ça, elles y allaient à tâtons.
Oui.
Mais malgré ça, j'avais quand même réussi à être invitée à plein d'endroits, à pouvoir parler de marques intéressantes, rencontrer des créateurs assez prestigieux.
Oui.
Et du coup, j'étais un peu au top de ce métier, si on peut appeler ça un métier, évidemment.
C'en était un.
À l'époque, pas encore. Aujourd'hui, on a tendance à le reconnaître comme un métier, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était tellement nouveau que on était regardé un petit peu de travers par tout le monde.
Vous en viviez en tout cas de ce que vous faisiez.
J'en vivais parce que les marques m'embauchaient pour travailler pour elles sur des projets, sur des choses annexes. Mais le blog en soi, c'était un tout petit revenu.
Le milieu de la mode, c'était un milieu qui vous épanouissait ou non ?
Mais pas tellement. J'espérais, en commençant dans la mode, rencontrer des gens passionnés, des gens qui avaient des savoir-faire exceptionnels. Et ça a été le cas. Mais la plupart du temps, j'étais confrontée à une ambiance
électrique,
un peu épouvantable.
Épouvantable.
Un peu une ambiance de cours de récréation.
Je n'osais pas parce qu'on va encore me taxer de taper sur la mode. Mais c'est vrai que le peu de fois où j'étais confrontée à ce milieu, j'ai trouvé ça mais totalement exécrable, que cela soit. Des mannequins, des coiffeurs, des maquilleurs, des réalisateurs aussi, puisque 2-3 réalisateurs sont là, bien présents dans la mode. Et c'est vrai que c'est un esprit particulier, hein. Vous parlez d'épouvantable, je suis assez d'accord avec vous.
Il y a des gens extraordinaires, mais
oui,
c'est difficile de les repérer dans tout ça, parce qu'il y a tellement de codes, en plus que je ne connaissais pas bien, et du coup que j'ai enfreint.
Oui.
Et du coup, ça crée plein de situations, de quiproquos assez complexes.
Bah, c'est un milieu où, en tout cas, il faut, vous faites bien de souligner les codes, parce que si on ne les a pas assimilés assez rapidement, je pense que ça peut faire très mal. Un jour, il y a eu un déclic, Caroline. Racontez-moi pourquoi, tout à coup, vous avez réalisé que ça n'était pas du tout ce que vous aviez envie de faire.
Alors, je sentais bien depuis quelques temps que je n'étais pas vraiment heureuse et épanouie dans ce travail. Je ne comprenais pas pourquoi et je me racontais, oui, mais ça ira mieux quand j'aurai réussi à gravir les échelons, ça ira mieux quand je serai vraiment reconnue par les marques, par les créateurs, comme quelqu'un d'influent. Je me racontais ce truc-là quand je serai invitée à tout ce qu'il faut, etc.
Ouais.
Et un soir, je me suis retrouvée, donc j'étais au Festival de Cannes. J'étais invitée par une marque et j'étais logée au Martinez. J'étais maquillée et coiffée par L'Oréal, comme les stars.
Mmh.
J'avais accès à toute une garde-robe, un showroom de robes de grandes marques.
Bon, sympa.
Que j'avais vu défiler.
Jusque-là, c'est assez sympa, non ?
Ouais, c'est extraordinaire, oui.
Ouais.
Et malgré tout ça, je me suis retrouvée dans la soirée qui précédait la montée des marches. Et je me suis dit, en fait, je n'ai rien à faire là. C'est pas ma place. Ça ne va pas du tout. Et je ne pouvais plus me raconter que ça irait mieux quand je serais au top, parce que j'y étais.
Oui. Vous y étiez.
Et c'était pas ça.
Et c'était pas ça. Vous êtes partie.
J'étais encore plus malheureuse qu'avant.
Mmh.
On voit
bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous vous êtes quand même formulé à un moment, Caroline, que c'était un milieu assez détestable et que vous y étiez malheureuse. Vous l'êtes formulé parce que vous le connaissiez bien, ce milieu.
Oui, mais je pense que si je ne m'étais pas trompée de rêve, parce que je crois que c'est ça l'erreur que j'ai faite,
oui.
On s'en remet de ce milieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien et qui se coulent là-dedans parce qu'ils sont tellement passionnés par la mode que le reste importe peu.
Oui.
Alors que là, vraiment, c'est juste que, au fond de moi, j'ai cru vouloir ce truc-là et c'était pas du tout pour moi. Je suis quelqu'un de l'ombre, je suis quelqu'un, j'aime écrire, j'aime le calme, je suis une introvertie.
Oui.
Donc, le fait de devoir aller tout le temps dans des soirées, le fait de devoir être prise en photo sans arrêt, etc., c'était pas pour moi.
Alors, on va voir Caroline dans quelques instants. Que vous êtes partie en Inde, que vous avez laissé tomber ce milieu de la mode, des Fashion Week, pour explorer l'inconnu. Et on va voir ce que vous avez découvert ensuite.
Europe 1. Vous nous racontez si vous avez changé de vie, changé de cap, quitté la ville, quitté la campagne, quitté la France. Vous avez peut-être tenté votre chance ailleurs. Voilà, tout quitter. 39-21, ça ne change pas, tout de suite.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et si vous changez de vie, une idée qui vous trotte dans la tête, vous avez franchi le cap, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Caroline qui nous expliquait qu'elle était partie un jour en Inde. En tout cas, qu'elle avait eu un déclic, parce qu'elle n'est pas encore partie en Inde, pardonnez-moi. Caroline, ces milieux de la mode, de la Fashion Week, on a compris que c'était fini, que vous êtes aperçu que ça n'était pas pour vous. Vous êtes partie en Inde et vous avez laissé tomber tout ça pour explorer l'inconnu. Ça, on entend déjà, dans ce que vous disiez dans l'avant-dernière partie de cette émission, que vous vous êtes vraiment découverte à ce moment-là?
J'ai fait quelque chose que j'avais jamais pris le temps de faire, c'est me demander ce que je voulais, ce que je voulais vraiment. Jusque-là, j'avais un peu suivi le flot de la vie, des opportunités, des choses qui s'étaient présentées à moi. Et j'avais eu beaucoup de chance, j'ai fait des choses très intéressantes, mais en fait, je ne m'étais jamais demandé ce que je voulais vraiment faire.
Aujourd'hui, vous avez totalement...
Et donc, partir comme ça plusieurs mois, ça a été l'opportunité d'y réfléchir.
En tout cas, en rompant avec le milieu de la mode, vous avez fini par devenir tout de même écrivaine et coach de vie aujourd'hui. On peut dire que vous vous êtes trouvée aujourd'hui.
Ah oui, oui, oui. Bah, j'ai vraiment compris que mon truc à moi, c'était de raconter des histoires et d'aider les gens autour de moi à se trouver, parce que à faire cette démarche que j'ai eu l'occasion de faire. Et je trouve que en habitant en ville, en travaillant, en ayant la pression parfois des enfants, des crédits, des trucs, on n'a pas le temps d'y voir clair et de se poser les bonnes questions.
Ouais.
Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, je pourrais sûrement aider les gens à faire la même chose que moi.
Sylvaine Pasquale, on écoute Caroline, on voit que là, il y a une rupture totale de milieu. On sent que ce plongeon vers l'inconnu et le voyage, surtout l'Inde, qui est un pays très inspirant, un pays habité, une terre vraiment qui, lorsque vous arrivez, alors peut vous séduire totalement et vous envoûter, comme elle peut aussi vous mettre une claque monumentale et vous faire exploser. Face à ce type de projet, Sylvaine Pasquale, est-ce que vous mettez en garde certains des hommes et des femmes qui viennent vous voir? Parce que partir à l'étranger, c'est un challenge, je dirais, c'est un double challenge.
Alors, je ne mets pas en garde, parce que effectivement, c'est un challenge, et puis chacun est en mesure de décider pour lui-même comment il a envie de mener son exploration de lui-même, comment il a envie d'aller à la rencontre de lui-même.
Oui.
Et pour certains, il n'y a pas de voyage, ou alors il y a plutôt un voyage intellectuel, on va dire, un voyage d'introspection, et pour d'autres, effectivement, ça passe par des ruptures géographiques très fortes. Et il m'arrive régulièrement d'avoir des clients, d'ailleurs, qui font une pause au milieu du travail qu'on fait ensemble, parce qu'ils ressentent le besoin d'ailleurs, le besoin de voyage, le besoin d'explorer autre chose. Alors, vous évoquez l'Inde, effectivement, on pense bien à un côté inspirant de ce type de voyage.
Oui. Mais qui peut être, comme je le disais, qui peut être vraiment une véritable claque. Hein. L'Inde, faut s'accrocher en Inde. Hein.
Oui. Oui, oui, parce que en règle générale, quand on part comme ça, surtout dans l'inconnu, dans un pays qu'on connaît très peu, on a tous vu des images à la télé ou dans des très beaux films où les gens se posent des questions, n'est-ce pas? Mais à l'arrivée, la réalité du terrain, on ne l'aperçoit que quand on y est.
Et Caroline, justement, pardonnez-moi.
Allez-y.
Je vous en prie, Sylvaine Pasquale.
Oui, je voulais dire que quand on arrive, c'est le moment, c'est une espèce de moment de révélation, parce que cette réalité du terrain, on peut se la prendre pleine figure et elle peut être extrêmement révélatrice de plein de choses qui nous tiennent à cœur.
Oui, je voulais demander à Caroline, justement, avec ce voyage en Inde, si vous aviez ressenti de l'angoisse avant, pendant, à quel moment et pourquoi?
Oui, déjà avant, parce que c'est un pays qui m'a toujours attirée, mais dont j'avais très peur, sans trop savoir pourquoi. Et sur place, oui, ça a été assez difficile, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, je me suis vite rendu compte que c'est un pays où on ne peut plus jouer un rôle, on ne peut plus se mentir parce qu'on n'en a pas l'occasion. En fait, on est tellement en train de risquer sa vie tout le temps, parce que ne serait-ce qu'en traversant la rue, on ne peut pas traverser la rue en pensant à autre chose comme on fait à Paris. Il faut vraiment regarder à droite, à gauche, être hyper attentif. Donc, on est vraiment dans l'instant. On n'est plus du tout dans ce tralala qu'on peut se raconter en temps normal.
Alors,
et ça m'a beaucoup aidé.
Alors, Caroline, pour remettre un petit peu aussi les choses, c'est que je suis allé en Inde plusieurs fois. Il est certain qu'il faut être très attentif. Mais lorsque je dis qu'on peut prendre une grande claque, aussi, c'est cette multiple vie, multiple existence, la pauvreté confrontée au monde moderne. On traverse tous les temps en l'espace de 50 mètres. On peut traverser un siècle à travers les différentes personnes qu'on trouve. Il y a une spiritualité là-bas qui est décuplée. Donc l'Inde, c'est en cela aussi que cela peut être dangereux, au-delà des voitures, bien évidemment, et des motos qui passent leur temps à klaxonner. Et c'est vrai que, mais en tout cas, ceux qui ont sont attirés par ce type de projet. L'Inde est bien évidemment, avec plein d'autres destinations, un pays qui vous révélera, j'en suis sûr. Mille merci, Caroline de Surani, pour votre appel et votre témoignage. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Va vers ta peur » disponible aux éditions Marabout. Merci à Aurélie Delahaye, à Charlotte, à Caroline de Surani donc, et à Sylvaine Pasquale pour ses éclairages. L'envie de changement est commune à de nombreuses personnes et révolutionner son quotidien est un rêve qui peut se transformer en réalité. Ça, on l'a totalement compris. Mais avant de se lancer, il est primordial de se questionner et de ne pas sauter le pas sans avoir bien pris tous les paramètres en compte de ce changement de vie. Prenez le temps de penser à votre nouveau projet et gardez en tête qu'une longue introspection est nécessaire pour ne pas regretter son choix et s'épanouir dans cette nouvelle vie qui vous tend les bras. Vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux, bien sûr.
Oui, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 et puis Twitter, Instagram, ou Twitter, hashtag Europe 1, pardon, et Instagram, Olivier de officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble du sexisme dans le sport, une réalité qui persiste, mais que de nombreuses personnes cherchent à combattre. Alors, si dès votre plus jeune âge, vous avez été victime de sexisme dans la pratique d'une activité sportive, si vous luttez contre le sexisme dans le sport, appelez-nous au 3921 et Omblin et moi serons là, comme d'habitude, pour vous écouter. Oui. J'étais ravi de passer cette heure avec vous. Il est temps maintenant, à 16h, de retrouver Karima Charny, qui va vous accompagner jusqu'à 18h en musique. Bonjour Karima.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Très bien et vous-même?
Alors, quel est le programme aujourd'hui Karima?
De la musique, de la bienveillance, de la détente. Les auditeurs d'Europe 1 sont également les programmateurs de l'émission musique. Alors sur les réseaux sociaux, et oui, hein, on vous met pas mal à contribution sur les réseaux sociaux avec le dièse, le hashtag musique, et bien proposez-nous des chansons, racontez-nous aussi les histoires, vous passerez à l'antenne, vous êtes avec nous. Voilà, 2 heures de musique, de bonne humeur pour terminer la journée. C'est parfait.
C'est impeccable. Eh bien, 2 heures avec Karima, vous voyez, c'est la vie, cette jeune femme.
On va même découvrir des artistes et des nouvelles chansons, dont le nouveau titre de Mylène Farmer, un duo virtuel avec le chanteur d'INXS. Écoutez. De la découverte, du bonheur, de la nouveauté, c'est ça musique, c'est ça sur Europe 1, et jusqu'à 18h.
C'est votre programme en tout cas, jusqu'à 18h. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à demain, Omblin,
à demain
Karima, au revoir.
À demain.